Des poches sous les yeux, l'interview, en partenariat avec la boîte à livres.
Anne-Marie Gara, bonsoir.
Bonsoir.
Nous sommes à la librairie La Boîte à Livres à Tours. Vous avez rendez-vous avec vos lecteurs dans quelques instants. On se rencontre pour parler de votre dernier roman, La Source, paru chez Actes Sud tout récemment. Alors moi, je vais commencer par vous faire travailler un petit peu, si vous voulez bien raconter aux auditeurs de quoi il est question dans votre roman.
Ah, raconter un roman, voyons. C'est un roman qui raconte qu'une vieille dame raconte à quelqu'un qui va à son tour aller raconter ce qu'elle a entendu à quelqu'un d'autre à l'autre bout du monde. Donc, c'est une histoire de transmission des récits, parce que moi, je crois très puissamment à la capacité des récits à nous transformer, même les récits de famille, qu'on se transmet même par fragments et par bribes, les lectures que nous avons faites et que nous avons racontées. J'ai ainsi raconté à mes petits-enfants Les Misérables in extenso et en détail et à suivre comme un feuilleton, de ces livres qu'on raconte aussi et de ces chroniques qui ont occupé notre mémoire, qu'on les transmet et que ça transforme ceux qui nous écoutent. Je crois que ce qui se passe dans le roman, c'est ça. C'est une jeune femme qui arrive pour des raisons personnelles, soi-disant universitaire, pour venir opérer sur le terrain un travail qu'elle va faire à ses étudiants dans un petit village de Franche-Comté. En fait, est logée chez une vieille dame qui héberge de temps en temps des randonneurs et qui va profiter de sa présence, elle qui est très vieille, pour déverser soir après soir une histoire qu'elle raconte pas toujours dans l'ordre, avec des épisodes violent, tragique, amoureux et aussi mystérieux, parce qu'il y a des secrets, des révélations et des complots dans cette famille d'une famille bourgeoise, enfin, qui a une grande maison un peu bizarre à l'écart du bourg et dont elle est maintenant la seule habitante.
Tout à fait, ouais.
J'ai planté le décor, voilà.
Vous avez même commencé déjà à aborder des questions que je voulais vous poser par la suite, mais bon, on y reviendra. Alors moi, je dirais qu'on est enchanté par votre roman au sens propre du terme. Je me suis trouvée comme télétransportée dans un passé qui sait devenir, grâce à la magie des mots, grâce à la force de vos descriptions et aux détails que vous insinuez par-ci par-là, donc un passé qui sait devenir incroyablement présent. Moi, j'ai été immédiatement séduite par le premier personnage que l'on découvre, donc la petite Lottie, enfant de 12 ans au tout début du 20e siècle. On rêverait d'avoir connu pour de vrai une petite fille, cette petite fille, tant moi j'ai été charmée par sa personnalité, sa curiosité. Je la trouve réellement fascinante. D'où est-ce qu'elle vous est venue, cette petite Lottie ? Alors, son prénom me semble déjà assez étrange.
Je ne sais pas très bien son nom moi-même, d'où ça vient Lottie comme diminutif. De toute façon, elle vient d'une origine très très modeste, de très très pauvre, d'une famille de misérables, de fermiers, une histoire assez sordide et terrible, enfin, où la mère elle-même est inquiétante, enfin, de violence rentrée et même
monstrueuse,
ouais. qui a tué son frère, enfin le petit frère par accident, d'une mémé qu'elle aimait, qui est morte sur la paillasse auprès de qui elle se réfugie. Enfin, cette enfant a une histoire sombre et en même temps elle est lumineuse parce que elle baie la première fois qu'on la voit, la première phrase, elle est assise sur le billot au coin du hangar en train de baie. On la prend pour une arriérée, n'est-ce pas? En réalité, elle a une ouverture au monde, une luminosité intense qui fait que pour elle, le monde est à déchiffrer, le monde est à dévorer et elle a un appétit de pouvoir, un appétit de compréhension aussi qui fait que le monde ne va pas lui résister. Ça n'est pas un hasard ni une providence si elle arrive à s'introduire dans la maison des voisins, cette grande maison voisine dans laquelle elle a vu entrer un homme qui passait sur le chemin avec une créature à deux têtes. En fait, il porte un enfant sur le dos qu'il vient livrer dans la maison en l'absence de ses habitants. Et donc, elle assiste à cette scène et cette scène pour elle est décisive. Elle va tout faire et en particulier rencontrer ce bébé qu'il adopte en suçant son doigt magique, je pourrais dire.
Réellement magique.
En fait, elle vient de l'autre bout du monde pour être déposée dans cette maison, un peu comme dans les contes. Elle va l'adopter, en effet, elle va entrer au service de ce bébé et en fait assister à sa croissance. Elle va grandir, cette petite Anaïs Onayepa, qui porte un nom bizarre, hein. Découvrir aussi les secrets de la maison, voir s'agiter les gens autour d'elle et découvrir toutes sortes de drames autour de cet enfant et d'un fils disparu, enfant d'un fils de la maison disparu. Mais cette maison, elle est hantée, il y a toutes sortes de présences qui sont là, et d'hommes en particulier, qui sont partis très loin, comme appelés par des ailleurs, le grand père qui a fait toute l'Afrique coloniale, son fils aussi militaire, enfin d'autres personnages qui arriveront du Tonkin, qui débarquent du Tonkin en motocyclette, et aussi de ce fils François, donc, qui est parti lui au Canada, au Yukon, là-bas, tout contre l'Alaska, très très loin, où cet enfant serait né. Donc Lottie, elle est la conteuse, la raconteuse de cette histoire. En même temps, elle dit qu'elle en est la récitante, c'est-à-dire qu'on n'est pas très sûr que tout ce qu'elle raconte soit bien vrai, et après tout, le vrai ou ce qui est imaginé, ce qui est menti aussi, peut-être ce qui est caché, enfin, compte autant que ce qui est raconté. Et c'est ça qui séduit, comme vous le disiez, la narratrice qui est là, qui est présente et qui l'écoute. Et je pense qu'elle tombe d'ailleurs au coin du feu, dans une espèce de sommeil à laquelle l'encourage la vieille dame, qui lui dit « mais dormez pendant que je parle ». Et je crois que c'est le sommeil dans lequel nous tombons quand nous lisons. C'est-à-dire que nous nous ensommeillons en quelque sorte, nous oublions tous les bruits du monde autour de nous pour n'être plus que concentrés dans nos lectures. Mmh. Les livres qui nous plaisent, hein, livres dans lesquels nous tombons, ont cet effet sur nous. Ils opèrent en nous quelque chose qui fait que nous recevons ces voix, la voix des récits, et que nous en sommes nourris au point que, comme la narratrice, qui elle est venue chercher l'histoire d'un père perdu dans le coin pendant l'occupation, qui est arrivé peut-être une histoire assez terrible, et elle-même va aller à l'autre bout du monde rapporter cette histoire. C'est ainsi que commence le roman, en fait. Mmh. Elle dit à Abel, la première fois que j'ai rencontré Lottie, etc., etc. Mmh. Elle s'adresse à un Abel qu'on ne connaît pas encore, à un homme, donc, et l'histoire d'amour qui se noue entre eux plus tard à Vancouver, et qui les emporte eux-mêmes sur les traces de ces hommes, enfin en particulier de François, jusqu'à Dawson City, le lieu de la ruée vers l'or. Ce qui les emporte, c'est aussi là l'enchantement du récit. J'ai foi en cette capacité que nous avons les uns et les autres, et comme dans la littérature de voix orale qui a été transmise pendant si longtemps dans les lieux les plus humbles, de ces récits ou mythes ou légendes rapportées, je pense que la littérature en est entièrement nourrie, en tout cas elle m'a nourrie, au point que je fais ce pari dans ce roman de l'ensorcellement des récits.
Pari réussi, hein, parce que moi j'en suis pas encore sortie de ce roman. Votre roman est étonnant par bien des aspects. Alors c'est pas un livre facile, entre guillemets, on ne lit pas, en tout cas moi je ne l'ai pas lu en une ou deux soirées. Je vous avoue que j'ai été très très surprise par votre écriture, alors au point que j'ai parfois dû relire deux ou trois fois la même phrase, alors non pas pour la comprendre, hein, mais plutôt pour comprendre ce qui m'arrivait à moi en tant que lectrice. Si vous le permettez, je vais lire un extrait, une phrase pour illustrer mon propos. Phrase qui commence, donc c'est la narratrice qui commence. Tout cela m'assaillait assez pour que je ne retrouve pas le sommeil et que me revienne ce que m'avait raconté Lottie, tandis que l'ensorcellement du feu libérait mon corps de sa fatigue, l'allégeait jusqu'à ce que je le quitte tel une cosse vide et la rejoigne dans l'espace et le temps de son récit, car, disait-elle, on ne sait où commencent les histoires, à quelle source elles prennent leur origine. C'est pourquoi on n'a guère que le choix d'entrer dans leur cours au moment qui semble le plus propice, de s'y risquer, comme on pénètre dans l'eau fuyante venue d'ailleurs, et glissant à sa pente, se laissant emporter parfois, mais surtout luttant à contre-courant pour remonter les pas et les sauts qu'elle a franchis, les bassins versants où elle s'est attardée, et avant cela les appartements souterrains de grottes et de retraits dont elle est issue, où elle s'est d'abord écoulée goutte à goutte avant de se déverser au plein air. Tout endormi que vous êtes, peut-être me suivrez-vous à cette époque où, enfant, je m'introduisais dans le domaine ni vu ni connu pour épier à leur insu la vie qui menait ses habitants.
Mais elle est pour moi le serpentement qu'opèrent en nous les récits, les romans, les histoires, et dans lesquels nous nous perdons ou nous franchissons des sauts et des pas pendant que nous lisons, des choses nous reviennent de nous-mêmes. Et donc, dans cette phrase un petit peu longue en effet, mais qui n'est pas difficile à comprendre, moi je fais le pari que les gens sont plus intelligents qu'on ne croit.
Bien sûr.
Par exemple, on m'a dit, cette femme, c'est une femme populaire, d'un milieu populaire, et quelle langue elle a? Ben d'abord, elle a la langue. C'est un préjugé de croire que les gens humbles ne maîtrisent pas la langue. Moi j'ai entendu mon grand-père, paysan, à peine alphabétisé à l'école avant de partir à la guerre de 14, qui employait des imparfaits du subjonctif, des mots qu'aujourd'hui on ne dit plus, mais par exemple chapitré, morigéné. oui. ou gourmander quelqu'un. Mmh. C'est des mots qui ont, moi je suis gourmande des mots, de ce qu'ils évoquent aussi, qu'ils tirent avec eux de leur ancienne histoire. Et puis cette femme aussi, c'est une femme lettrée, elle lit les livres qui n'étaient pas écrits pour elle, elle entre dans la bibliothèque, que personne n'a lu d'ailleurs, qui a été achetée, les livres ont été achetés au kilo et en vrac par le bâtisseur de la maison pour décorer, mais elle prend les livres au sérieux et elle les lit, et elle le lit en vrac n'importe quoi, les livres de colportage qui sont là, les almanachs en même temps que la grande littérature, que les atlas, elle dévore les atlas, elle qui ne bougera jamais de sa maison, et donc je fais le pari que la langue porte tout cela, que les mots nous les connaissons, et comme elle le dit à un moment, d'ailleurs même quand elle la rencontre qu'elle ne connaît pas, elle les prise mieux chaque fois qu'elle les rencontre, comme des gens qu'on croise dans la rue qui à force vous deviennent familiers et vous disent bonjour parce que vous devenez de leur connaissance. Moi je crois beaucoup à ça, et même pour les enfants, que nous employons des mots quelquefois un petit peu qui se sont raréfiés, qu'on n'a plus sur le bout de la langue, mais qui à force de les employer une fois, deux fois, trois fois, ils ont une étrangeté telle qu'ils séduisent, et les enfants adorent rouler dans leur bouche les mots étranges beaucoup plus que les mots ordinaires de la communication ordinaire. Et moi, je fais le pari quand j'écris que cette langue-là porte le lecteur, bien loin de l'éloigner ou de le dissuader. Je pense qu'elle lui fait honneur et qu'en même temps, il jouit de cette capacité qu'ont les mots à nous révéler des mondes. Et des mots ordinaires, des mots simples, en eux, ils ont leur histoire, les mots, ils portent leur histoire. Et donc, c'est pour ça que je les assimile aussi au flux de la flâne, de la rivière, cours de l'eau, hein, qu'on peut remonter à contre-courant, et on peut remonter dans le livre, ou on peut se laisser porter par lui dans la descente, dans sa pente, enfin, etc. Et je crois beaucoup à cette puissance liquide des mots dans laquelle nous baignons. Et puis après tout, s'il y en a qu'on rencontre et qu'on ne connaît pas, on ne va pas aller chercher le dictionnaire. On continue.
C'est ce que j'ai tenté de faire.
Mais non, il faut pas.
Je me suis dit, tu vas attendre, continuons.
Mais attends, il n'y a pas tellement de mots rares. Il ne faut pas en avoir peur des mots rares. Il faut passer par-dessus.
Il y en a quand même beaucoup plus que dans la littérature contemporaine.
Alors, je vais vous dire, il y a une forme de littérature qui emploie la langue de communication, et je pense que la littérature ne communique pas. Elle n'est pas au niveau de ce qu'on lit dans les magazines, de ce qu'on lit dans la presse, qui a sa langue, la langue de l'information, la langue de la communication. Donc, je pense que la littérature est un art du langage et que des grands écrivains comme Victor Hugo, comme Giono, pour moi, m'ont nourri, et d'autres encore, hein, y compris la littérature populaire du 19e siècle, du feuilleton. Je revendique l'héritage du feuilleton à suivre, n'est-ce pas, les mystères et boules de gomme et les intrigues abracadabrantes qui nous plaisaient tant et qui nous font rêver. Je revendique cet héritage là aussi, mais il n'y a rien à céder sur la beauté de la langue. C'est notre trésor, c'est la matière même dont sont faites nos vies, et encore une fois, il faut pas je pense que les livres trop faciles à lire et qui vont dans le sens du poil pour ne pas effrayer le lecteur et qui sont d'une certaine manière lus avant que nous les ayons lus. C'est-à-dire qu'ils ne découvrent rien, qu'ils n'ouvrent aucun horizon. Bon, ce sont des produits de saison, ça peut de temps en temps nous convenir pour passer 10 minutes dans le métro, mais moi je crois que non. Je crois que la littérature, elle a cette matière-là inouïe qu'est le langage. Et beaucoup de mes personnages aussi font ce pari. Par exemple, un des personnages là que Anaïs va précipiter d'un cerisier et qui devient infirme, devient boiteux, mais du coup ne part pas à la guerre de 14, il survit et devient un des spécialistes de la langue amérindienne, va trouver les Indiens, il va vers l'autre qui parle l'autre langue, qui rêve autrement, qui pense autrement, et donc je crois que l'altérité, ce qu'il y a d'autre dans la langue, nous propose ces déplacements, ces voyages vers l'autre, d'abord que nous sommes à nous-mêmes, nous découvre à nous-mêmes. Et donc c'est cette conviction que j'ai qui fait que l'énergie aussi que je mets dans mes romans, elle est là, dans cette conviction que le roman, c'est une machine à transporter et à transformer les êtres.
Ah, c'est rigolo parce qu'en fait, je voulais justement terminer notre entretien par une question, enfin, pour vous demander si vous ne vous sentiez pas des fois un petit peu seul ou à contre-courant justement sur le traitement de la langue aujourd'hui. Bon, vous venez de répondre, donc...
Non, pas à contre-courant, pas du tout. C'est pas parce que le courant ordinaire est assez commun, disons, d'une forme de production de livres. Il faut faire la distinction entre le livre, qui est un support de toutes sortes de choses, hein, et puis la littérature, qui reste quand même la forme de création dans le langage, artistique, n'ayons pas peur des mots. Mm-hmm. C'est un art, la littérature.
Tout à fait,
hein. C'est pas, encore une fois, c'est pas un outil de communication. C'est un art. Et donc, je ne suis pas la seule, pensez donc dans le paysage, puisque moi, je suis au jury du Fémina et que j'ai lu beaucoup de livres de la rentrée. Je peux vous dire que ceux dont on parle le plus sont pas les plus puissants,
oui,
en création,
oui,
et qu'il y en a de magnifiques, et que grâce à des libraires comme celui qui m'invite, hein, qui sont d'extraordinaires passeurs, cette littérature-là continue d'exister. Je crois que c'est de celle-là dont les lecteurs ont besoin, qu'ils vont rencontrer. Moi, par exemple, j'étais tellement étonnée que ce roman Dans la main du diable, qui est maintenant date de 10 ans, hein, continue d'avoir des lecteurs qui reviennent vers moi, et pourtant il n'est pas écrit dans une langue de tous les jours. Et je pense que je fais aussi honneur au lecteur, en même temps qu'à la littérature, que de le mettre à ce niveau-là, qui n'est pas non plus hermétique et prétentieux, pas du tout.
Non,
c'est
pas
une
du
langue,
tout.
C'est une langue qui est accessible.
Non, c'est une langue qui est accessible. Et alors, encore une fois, moi je vous dis, moi j'ai dû la lire à haute voix, cette phrase.
Et pourquoi pas?
Et là, c'est vraiment un livre que j'ai envie de lire.
De se mettre en bouche. De se mettre dans la bouche.
Et puis il y a des choses tellement magnifiques. Enfin, cette phrase, pour moi, elle contient le roman dans son entier. Ces allitérations, en fait, dont je me suis à peine aperçue comme ça, j'ai eu une intuition en lisant, mais en l'entendant, en m'entendant le lire, voilà, tous ces je trouvais ça extraordinaire. Et puis alors, là où j'ai été surprise, en fait, c'est également l'utilisation du jeu que vous faites. Cette phrase, cette fameuse phrase, elle commence par jeu, la narratrice.
Le jeu de la narratrice, par le jeu de l'outil.
Voilà,
cette interférence des voix. Les voix se rencontrent et se superposent ou glissent de l'une
à
l'autre. Elles deviennent même, parce qu'il y a une imprégnation de l'une à l'autre. D'ailleurs, c'est un acte de possession que l'Oti arrive à capter, à captiver son auditrice qui est là, qu'elle ne connaît pas, mais en qui elle déverse son histoire. Et l'autre en prend héritage, en quelque sorte, et à son tour va raconter. Donc il y a eu un glissement des personnes, oui, des sujets, et bien après tout, moi je pense que quand enfant on a entendu quelqu'un vous captiver avec une histoire, je parle d'oralité là, quand des vieilles gens, des grands-parents ou des parents, hein, nous ont lu ou raconté le soir ou comme ça, ça reste en nous, et le goût d'aller le déposer à notre tour dans l'oreille de l'autre.
Oui, elle fait penser au griot.
Il y a quelque chose de chamanique.
Soit.
Il faut que la littérature, elle fonctionne comme ça aussi. C'est-à-dire que nous entendions en lisant la voix. Moi, je pense que quand je lis, je disais Giono tout à l'heure ou Hugo, mais c'est vrai pour Homère, ou c'est vrai pour Alexandre Dumas, ou c'est vrai pour La Fontaine, que quand nous sommes dans le texte, nous incorporons la voix de l'écrivain par-delà la mort, par-delà le temps qui a passé. Ces voix-là ressuscitent en nous. C'est nous, en effet, qui les articulons au fond de nous et qui nous approprions leur voix. Et donc cette présence de la littérature en nous, c'est une foi, c'est une conviction que j'ai. Voilà, et j'espère la transmettre.
J'espère qu'on aura donné envie à nos éditeurs de vous découvrir ou de vous redécouvrir.
Oui.
En tout cas, avec La Source, parue chez Actes Sud.
C'était l'interview des Poches sous les yeux en partenariat avec la boîte à livres. Retrouvez cette interview sur radiobeton.com, despochessousleyeux.fr ou encore la page Facebook des Poches sous les yeux.